Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audible Studio présente Endymion de Dan Simmons. Traduit de l'américain par Guy Abadia. Lu par Mathieu Dahan. Gardons-nous d'oublier que l'âme humaine, quelque indépendante dans sa création que notre philosophie la représente, est inséparable, de par sa naissance et sa croissance, de l'univers dans lequel elle est née. Teilhard de Chardin. Donnez-nous des dieux. Oui, donnez-nous-en. Donnez-nous des dieux. Nous en avons assez des hommes et des puissances moteurs. D. H. Lawrence. Chapitre 1. Vous êtes en train de lire ceci pour de mauvaises raisons. Si vous lisez ces lignes pour savoir quel effet cela fait de faire l'amour avec une messie, notre messie, vous auriez tort de continuer, car vous n'êtes rien de plus qu'un voyeur. Si vous les lisez parce que vous êtes un fan des cantos du vieux poète et que la curiosité vous dévore de savoir ce qui s'est passé ensuite dans la vie des pèlerins d'Hyperion, vous risquez fort d'être déçu. J'ignore ce qui est arrivé à la plupart d'entre eux. Ils ont vécu et sont morts environ 3 siècles avant ma naissance. Si vous lisez ceci parce que vous cherchez à mieux percer le message de celle qui enseigne, vous risquez également d'être déçu. J'avoue que je me suis plus intéressé à elle en tant que femme qu'en tant que professeur ou messie. Pour finir, si c'est pour être renseigné sur son sort que vous lisez ceci, vous n'avez pas le bon document entre les mains. Bien que nos destins respectifs semblent aussi tracés qu'un destin peut l'être, je n'étais pas à ses côtés quand le sien s'est joué. Et le mien attend encore son dernier acte tandis que j'écris ces lignes. Si vous lisez ces lignes, de toute manière, j'aurai de quoi être grandement étonné. Mais ce ne serait pas la première fois que je serais surpris par un événement. Ces dernières années ont vu s'accumuler improbabilité sur improbabilité, chacune un peu plus sidérante et, semble-t-il, inévitable que la précédente. C'est pour partager ces souvenirs avec d'autres que j'écris ceci. Ou plutôt, ma motivation n'est même pas de les partager, car je sais qu'il y a très peu de chances pour que ce document soit découvert un jour. Ce qui me motive, c'est uniquement de coucher sur le papier une certaine série d'événements afin de pouvoir les structurer dans mon esprit. Comment saurais-je ce que je pense tant que je n'ai pas vu ce que je dis, a écrit je ne sais quel auteur pré-égyrien. Et c'est exactement cela. Il faut que je voie ces choses avant de savoir ce que je dois en penser. Il faut que je voie ces événements transformés en encre et ces émotions imprimées sur le papier pour arriver à croire qu'ils se sont bien produits et qu'ils m'ont touché. Si vous lisez ces lignes pour la raison qui me pousse à les écrire, pour structurer un peu le chaos de ces dernières années, pour imposer un semblant d'ordre à la série essentiellement aléatoire d'événements qui ont régi notre existence au cours des décennies qui viennent de s'écouler, c'est peut-être que vous avez de bonnes raisons de le faire, après tout. Par où commencer? Par une sentence de mort, peut-être. Mais laquelle? La sienne ou la mienne? Et si c'est la mienne, laquelle choisir? Il y en a plusieurs entre lesquelles il convient de faire un choix. Et c'est peut-être la dernière qui est le plus appropriée. Celle qui consiste à commencer par la fin. J'écris ceci dans un casier à chat de Schrödinger en orbite haute autour du monde en quarantaine d'Armagast. Ce casier à chat ne ressemble pas tellement à un casier, mais plutôt à un ovoïde à coque lisse qui mesure à peine 6 mètres sur 3 et constituera la totalité de mon univers jusqu'à la fin de mes jours. À l'intérieur, c'est une cellule plutôt spartiate qui contient une boîte noire, assurant le recyclage de l'air et des déchets, une couchette, un synthétiseur de nourriture, un comptoir étroit qui me sert à la fois de table à manger et de bureau pour écrire, un évier, une douche et des toilettes, tout cela derrière une cloison en fibroplaste pour des raisons de décence qui m'échappent, car personne ne viendra jamais me rendre visite ici, et l'isolement pour cause d'intimité ressemble à une plaisanterie plutôt creuse. Je dispose d'une ardoise de texte et d'un stylet. Chaque fois que je termine une page, je l'imprime sur un micro-vélin produit par le recycleur. La lente accumulation des feuillets fins comme du papier de soie constitue le seul changement visible d'un jour à l'autre dans mon environnement. L'ampoule de gaz toxique n'est pas apparente. Elle est incorporée à la coquille statodynamique du casier à chat et reliée de telle manière au système de filtration de l'air que toute tentative d'y toucher déclencherait immédiatement la diffusion du cyanure, de même que toute tentative de briser la protection. Le détecteur de radiation, son horloge et l'élément isotopique sont également fondus dans l'énergie figée de la coquille. Je n'ai aucun moyen de savoir à quel moment le minuteur à déclenchement aléatoire va activer le détecteur, ni à quel moment le dispositif d'ouverture va laisser passer le minuscule isotope dans l'enceinte blindée. Je ne peux pas savoir quand l'isotope produira une particule. Mais je saurai que le détecteur a été activé dès l'instant où l'isotope la produira. Il y aura normalement dans l'air une odeur d'amande amère, une seconde ou deux avant que le gaz me tue. J'espère que cela ne durera pas plus d'une seconde ou deux. Techniquement, conformément à l'ancienne énigme de la physique quantique, je ne suis actuellement ni mort ni vivant. Je suis dans l'état suspendu des ondes de probabilité chevauchante, autrefois réservées à l'expérience mentale du chat de Schrödinger. Dans la mesure où la coque du casier à chat n'est rien d'autre que de l'énergie piégée prête à exploser à la moindre intrusion, personne ne viendra regarder à l'intérieur si je suis mort ou vivant. Théoriquement, personne n'est directement responsable de mon exécution, puisque les lois immuables de la théorie quantique m'accordent ma grâce ou me condamnent d'une microseconde à l'autre. Il n'y a pas d'observateur. Mais moi, je suis un observateur. Et j'attends l'effondrement de ces ondes de probabilité particulières avec un peu plus qu'un intérêt détaché. Dès l'instant où je commencerai à entendre le sifflement du gaz au cyanure, juste avant qu'il gagne mes poumons, mon cœur et mon cerveau, je saurai dans quel sens l'univers a choisi de s'orienter. Je le saurai, du moins en ce qui me concerne. Ce qui, à bien voir, est l'unique aspect de la résolution de l'univers qui intéresse vraiment la majorité d'entre nous. En attendant, je mange, je dors, j'évacue mes déchets, je respire et j'accomplis la totalité du rituel quotidien de ce qui est finalement oubliable. Chose qui me paraît tout à fait ironique dans la mesure où je ne vis plus maintenant, si vivre est le terme adéquat, que pour me souvenir et pour écrire ce dont je me souviens. Si vous lisez ces lignes, vous le faites probablement pour une mauvaise raison. Mais comme il en est de tant d'éléments qui concernent nos existences, la raison pour laquelle on accomplit une chose n'est pas toujours ce qui a le plus d'importance. C'est faire la chose qui compte. Seule la certitude immuable que j'écris ces mots et que vous êtes en train de les lire a de l'importance en dernière analyse. Par où commencer? Par elle. C'est sur elle que vous avez envie d'être documenté. Et elle est la seule personne dans ma vie à qui je désire penser par-dessus tout et plus qu'à n'importe qui d'autre. Mais il convient peut-être que je commence par les événements qui m'ont conduit à elle, puis ici, en passant par une grande partie de la galaxie et au-delà. Je crois que je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire ma première sentence de mort. Chapitre 2. Je m'appelle Roll Endymion. Mon prénom rime avec Paul. Je suis né sur le monde d'Hyperion en l'an 693 de notre calendrier local, ou 3099 pré-égyrien, ou encore, comme la majorité d'entre nous s'exprime à l'ère de la Pax, 247 ans après la chute. On disait de moi, lorsque je voyageais en compagnie de celles qui enseignent, que j'étais un berger. Et c'était vrai. Ou presque. Dans ma famille, on gagnait traditionnellement sa vie comme berger itinérant dans les Landes et sur les plateaux des régions les plus reculées du continent d'Aquila, où j'ai grandi et où je gardais occasionnellement les moutons étant enfant. J'ai conservé un souvenir très agréable de ces nuits douces et tranquilles sous le ciel étoilé d'Hyperion. À 16 ans, selon le calendrier d'Hyperion, j'ai quitté la maison sur un coup de tête pour m'enrôler comme soldat dans la garde nationale contrôlée par la Pax. Des 3 ans que j'y ai passés, il ne me reste que le souvenir d'un morne ennui, à l'exception désagréable des 4 mois où j'ai été envoyé sur le plateau de glace de la Griffe pour combattre les indigènes lors du soulèvement d'Ursus. Après la fin de mon engagement, j'ai travaillé comme videur, puis croupier dans l'un des casinos les plus malfamés des Neuf Queues, servi comme maître de péniche dans les régions supérieures du Cans durant 2 saisons des pluies, et joué le rôle d'apprenti jardinier dans le domaine du Bec sous la direction du paysagiste Avrol Hume. Mais berger devait sonner mieux aux oreilles des biographes de celles qui enseignent quand il s'agissait de dresser la liste des anciennes activités de son plus proche disciple, berger ayant d'agréables connotations bibliques. Ce n'est pas que j'ai une objection, mais dans ce récit, j'aurai le rôle d'un berger dont le troupeau comportera une seule brebis d'une importance infinie, et on ne peut pas dire que je l'ai trouvée. C'est plutôt le contraire, je l'ai perdue. À l'époque où ma vie changea définitivement et où je commence cette histoire, j'avais 27 ans. J'étais plutôt grand pour quelqu'un qui est né sur Hyperion, et rien ne me distinguait particulièrement, si ce n'est l'épaisseur des cales à mes mains et mon goût prononcé pour les idées baroques. Je travaillais alors comme guide de chasse dans les marais situés au-dessus de la baie de Toshaï, à 100 km au nord de Port-Romance. À ce stade de mon existence, j'avais appris quelques petites choses sur le sexe et énormément sur les armes. J'avais découvert, à mon corps défendant, l'emprise que peut avoir la cupidité sur les affaires des hommes et des femmes. J'avais appris à utiliser mes poings et ma modeste cervelle pour survivre. J'étais curieux d'un très grand nombre de choses et je ne me sentais en sécurité qu'à l'idée que le reste de ma vie ne recelait sans doute plus pour moi aucune surprise de taille. J'étais un imbécile. La majeure partie de ce que j'étais, en fait, cet automne-là, à 28 ans, peut être décrite de manière négative. Je n'avais jamais quitté Hyperion. Je n'avais jamais envisagé de voyager hors de la planète. J'étais entré dans des cathédrales, naturellement, même dans les régions lointaines où ma famille s'était réfugiée après le sac de la cité d'Endymion, 1 siècle plus tôt. La Pax avait étendu son influence civilisatrice, mais je n'avais jamais accepté ni le catéchisme, ni la croix. J'avais fréquenté des femmes, mais je n'avais jamais été amoureux. En dehors de l'éducation que m'avait donnée ma grand-mère, toute la culture que j'avais acquise était autodidacte et venait des livres que je dévorais passionnément. À 27 ans, je croyais tout savoir. Mais je ne savais rien. C'est ainsi qu'au début de l'automne de ma 28e année, satisfait de mon ignorance et convaincu que rien d'important ne pourrait jamais changer le cours de ma vie, je commis l'acte qui devait me valoir une sentence de mort et marquer le début de ma vraie vie. Les marais au-dessus de la baie de Toshaï sont insalubres et dangereux. Ils n'ont pas changé depuis une époque qui remonte à bien avant la chute. Mais des centaines de riches chasseurs, souvent venus d'autres mondes, y affluent chaque année pour la chasse aux canards. La majeure partie des proto-colverts sont morts rapidement après leur régénération lorsque les vaisseaux d'ensemencement les ont disséminés 7 siècles plus tôt. Ils étaient ou bien incapables de s'adapter au climat d'Hyperion, ou bien en butte aux assauts des prédateurs autochtones. Mais quelques-uns ont survécu dans les marais du centre nord d'Aquila, et les chasseurs sont venus. Mon travail consistait à les guider. Nous étions 4 à opérer aux alentours d'une plantation de fibroplastes abandonnée, située sur une langue étroite de schiste et de boue, entre les marécages et un affluent du fleuve Cans. Les 3 autres guides étaient spécialisés dans la pêche et dans la chasse au gros gibier, mais j'avais la plantation et la plus grande partie des marais rien qu'à moi pendant la saison de la chasse aux canards. Il s'agissait d'une zone marécageuse semi-tropicale, consistant principalement en chalmes denses et en forêts de vortes, avec des bouquets plus stables de prométhées géants dans les zones rocheuses, entourant la plaine alluviale. Lors des premiers froids du début de l'automne, cependant, les colverts s'y arrêtaient dans la migration qui les conduisait des îles du Sud au lac des lointaines régions du plateau du Pignon. Je réveillais mes quatre chasseurs une heure et demie avant le lever du soleil. J'avais préparé du jambon frit, des toasts et du café, mais les quatre hommes d'affaires bedonnants engloutirent tout cela en grognant de mauvais poil. Il fallut que je leur rappelle de vérifier leurs armes et de les nettoyer. Trois d'entre eux s'étaient munis d'une carabine, mais le quatrième avait fait la bêtise d'apporter un vieux fusil à rayon. Pendant qu'ils mangeaient, en récriminant, j'allais derrière la cabane m'asseoir à côté d'Izzy, la chienne labrador que j'avais depuis sa naissance. Elle savait que nous partions chasser, et j'étais obligé de lui caresser la tête et le cou pour la calmer. L'aube commençait à pointer lorsque nous quittâmes la végétation touffue de la plantation dans une barque à fond plat. On voyait volter les somptueuses diaphanes à travers les tunnels noirs des branches et au-dessus des cimes. Les chasseurs, Rollman, Erig, Ruchomine et Poneascu, étaient assis sur les traverses à l'avant pendant que je maniais la perche. Izzy et moi étions séparés d'eux par un petit tas d'affûts flottants dont les disques inférieurs étaient en partie visibles sous l'épaisseur de leur revêtement de fibroplaste. Rollman et Erig portaient de luxueux ponchos en tissu caméléon, mais ils attendirent d'arriver au cœur du marécage pour en activer les polymères. Je leur demandai de ne pas parler si fort lorsque nous arrivâmes à l'entrée des marais d'eau douce où les colverts allaient se poser. Les quatre hommes me jetèrent un mauvais regard, mais baissèrent le ton et ne dirent bientôt plus rien. Il faisait maintenant presque assez jour pour pouvoir lire. J'arrêtai la barque à la lisière de l'espace découvert et mis les affûts à flot. J'enfilai ma tenue étanche et me glissai dans l'eau qui m'arrivait à la taille. Izzy se pencha sur l'eau, les yeux brillants, mais je lui fis un geste pour l'empêcher de sauter. Elle frémit de tout son corps, mais resta dans la barque. « Passez-moi votre arme, s'il vous plaît, » demandai-je à Poneascu, le premier de ces messieurs. Ces chasseurs occasionnels avaient déjà assez de mal à garder leur équilibre pour grimper dans les affûts minuscules. Je ne leur faisais pas du tout confiance quand ils avaient en plus une arme à la main. J'avais insisté pour qu'ils vident la chambre et verrouillent la sécurité, mais lorsque Poneascu me tendit son arme, je vis que le témoin de charge était au rouge et que la sécurité n'était pas mise. J'éjectai la cartouche, abaissai la sécurité, glissai le fusil dans l'étui étanche que je portais à l'épaule et stabilisai l'affût pendant que le gros homme descendait de la barque. « Je reviens tout de suite », chuchotai-je aux trois autres. Je commençai à avancer dans l'eau parmi les chalmes en tirant l'affût derrière moi par sa sangle. J'aurais pu laisser les chasseurs se poster à l'endroit de leur choix, mais le marécage était truffé de kystes de boue rapides, susceptibles d'engloutir d'un coup l'affût et son occupant, peuplés de tiques draculéennes qui avaient une fâcheuse propension à se laisser tomber des branches sur tout ce qui se déplaçait sur l'eau, décorés de guirlandes de serpents qui avaient exactement l'aspect du chalme, et grouillant de jarres guerriers capables de vous enlever un doigt. Ce n'étaient pas les seules surprises que réservaient ces lieux aux visiteurs novices. Sans compter que l'expérience m'a appris que la plupart des chasseurs du dimanche ont tendance à choisir pour leurs affûts des emplacements qui leur permettent de mieux se canarder les uns les autres dès l'apparition du premier vol de colvert. Mon métier est d'empêcher ces choses d'arriver. Je plaçai H. Poneascu sous une boucle de frondaison touffue, d'où il avait une excellente vue de toute la partie sud des eaux libres du marais. Je lui montrai les endroits où les autres affûts allaient être placés et lui recommandai de bien regarder par la fente de la structure flottante et de ne pas commencer à tirer tant que tout le monde ne serait pas placé. Puis je retournai chercher les trois autres. Je plaçai Ruchomine à une vingtaine de mètres sur la droite du premier, attribuait à Rollman un bon emplacement à l'entrée du Brado et allait chercher Ash Herrig avec son ridicule fusil à rayon. Le soleil allait se lever dans 10 minutes.
« Triple mort, il était temps que vous vous souveniez de moi !»
lança le gros homme tandis que je pataugeais à sa rencontre. Il était déjà installé dans son affût, son pantalon caméléon tout mouillé. Les bulles de méthane qui crevaient à la surface indiquaient la présence d'un gros kyste de boue entre la barque et l'entrée du Brado, de sorte qu'il fallait que je longe le plateau de boue chaque fois que j'allais ou venais.
« On ne vous paye pas pour que vous perdiez votre putain de temps à faire ça »
grogna-t-il tandis que son épais cigare s'agitait d'un côté puis de l'autre entre ses lèvres. Je hochai la tête sans répondre, tendis la main, lui arrachai des lèvres le cigare allumé et le jetai dans la direction opposée à celle du kyste. Nous avions de la chance que les bulles n'aient pas pris feu.
« Les canards sentent la fumée de loin », expliquai-je en ignorant l'expression arrondie de sa bouche et la rougeur qui avait envahi son visage.
Je glissai le harnais sur mes épaules et tirai son affût vers le marais, ouvrant du torse un chemin à travers les algues rouge-orange qui avaient envahi la surface depuis mon dernier passage. Ash Herrig caressa la crosse de son coûteux et inutile fusil à rayon en me lançant un regard furibond.
« Mon vieux, faites attention à votre triple mort de bouche ou c'est moi qui vais m'en occuper », me dit-il.
Son poncho et sa vareuse de chasse en tissu caméléon laissaient apercevoir l'éclat d'une double croix en or de la Pax accrochée à son cou, ainsi que la vergeture rougeoyante du cruciforme proprement dit sur sa poitrine. Herrig était un chrétien régénéré. Je ne prononçai pas une seule parole jusqu'à ce que j'aie placé correctement son affût sur la gauche, à l'entrée du Brado. Mes 4 experts pouvaient maintenant tirer en direction du marais sans risque de se blesser mutuellement.
« Déployez la toile et regardez par la fente »,
murmurai-je en détachant la corde de mon harnais pour la fixer à une racine de chalme. Herrig laissa entendre un bruit indistinct, mais laissa la toile enrouler autour des montants de la voûte.
« Attendez que j'ai disposé les leurres avant de faire feu »,
lui dis-je en lui indiquant les positions des autres.
« Et ne tirez pas en direction du goulet d'entrée, c'est là que je serai avec la barque. »
Il ne me répondit pas. Je haussai les épaules et retournai jusqu'à l'embarcation. Izzy était toujours à l'endroit où je lui avais ordonné de rester, mais je voyais à ses muscles tendus et à ses yeux brillants qu'elle gambadait déjà en imagination comme un jeune chien. Sans grimper dans la barque, je lui flattais le cou.
« Plus que quelques instants à présent, ma fifille, » chuchotai-je.
Libérée de l'obligation de ne plus bouger, elle bondit à l'avant pendant que je tirais l'esquif vers le Brado. Les diaphanes avaient maintenant disparu et les averses de météorites s'espaçaient de plus en plus à mesure que la lumière de l'aube se solidifiait en un éclat laiteux. La symphonie des insectes et le cri rauque des amphisbanes au milieu des lits de boue laissaient progressivement place aux cris d'oiseaux du petit matin et aux barils occasionnels d'un jar en train de gonfler sa poche à défi. À l'est, le ciel commençait à prendre sa teinte lapis plus soutenue du plein jour. Je sortis la barque de dessous les frondaisons en faisant signe à Izzy de rester à la proue et sortis 4 leurres qui se trouvaient sous les bancs. Il y avait une très légère couche de glace le long de la rive, mais le centre du marais était dégagé et je mis chaque leurre en place après l'avoir préalablement activé. Partout, l'eau ne m'arrivait jamais plus haut que le sternum. Je venais de retourner auprès d'Izzy pour me tapir sous les frondaisons lorsque les canards arrivèrent. Ce fut Izzy qui les entendit la première. Son corps devint rigide et elle leva un museau frémissant comme si elle flairait une odeur dans la brise. Une seconde plus tard, j'entendis un murmure d'elle. Je me penchai en avant pour regarder à travers le fragile feuillage. Au centre de la mare, les leurres nageaient en lissant leur plumage. L'un d'eux tendit le cou et lança son appel juste au moment où les vrais colverts se montraient au-dessus de la ligne des arbres au sud. Un vol de 3 canards rompit sa formation. Les volatiles déployèrent leurs ailes pour freiner et descendirent comme sur des rails invisibles vers le marais. j'éprouvais l'excitation que je ressens toujours dans ces moments-là. Ma gorge se serre et mon cœur se met à battre très fort, semble s'arrêter un instant et me cause une douleur palpable. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans des régions reculées, à observer la nature. Mais le spectacle de tant de beauté a toujours fait vibrer en moi quelque chose de si profond que je ne connais pas de mots pour décrire cette sensation. À mes côtés, Izzy était aussi immobile et silencieuse qu'une statue d'ébène. La fusillade commença alors. Les trois carabines ouvrirent le feu en même temps et continuèrent aussi rapidement qu'elles pouvaient éjecter les cartouches. Le fusil à rayon traversa le marais de son étroit faisceau de lumière violette clairement visible dans la brume du matin. Le premier canard dut être touché par deux ou trois tirs différents. Il éclata en une gerbe de plumes et de viscères. Les ailes du deuxième se plièrent et il tomba, vidé de toute grâce et de toute beauté. Le troisième vira sur sa droite, se rétablit juste au niveau de l'eau et battit des ailes pour essayer de reprendre de l'altitude. Le rayon d'énergie le poursuivit, tailladant le feuillage et les branches comme une faux silencieuse. Les carabines tonnèrent de nouveau, mais le colvert semblait anticiper leur direction. Il vola vers le lac, vira sur l'aile vers la droite et prit la direction de l'entrée du goulet. Droit sur Izzy et moi. Rasant l'eau à moins de 2 mètres, le canard battait désespérément des ailes, le corps tendu dans un unique objectif de fuite en avant. Je compris soudain qu'il allait passer sous les arbres pour traverser le goulet en plein centre. Son schéma de fuite inhabituel l'avait déjà fait passer devant plusieurs positions de tir, mais cela n'empêchait pas les 4 hommes de continuer à tirer frénétiquement. Je poussai la barque de ma jambe droite pour la faire sortir du couvert des branches.
« Ne tirez plus !»
ordonnai-je de la voix de commandement que j'avais acquise au cours de ma brève carrière de sergent dans la garde nationale. 2 des hommes obéirent, mais une carabine et le fusil à rayon continuèrent de tirer. Le colvert passa à tire-d'aile devant la barque, à 1 mètre à peine sur notre gauche. Tout le corps d'Izzy se tendit et sa mâchoire sembla tomber de surprise lorsque le canard nous dépassa. La carabine se tut, mais je vis le rayon violet zoomer sur nous à travers la brume légère. Je hurlais et plaquais Izzy contre le banc. Le colvert traversa le tunnel de Chalm derrière nous et battit des ailes pour reprendre de l'altitude. Soudain, une odeur d'ozone imprégna l'air et une ligne de flamme parfaitement droite balaya l'arrière de la barque. Je me jetai à plat ventre dans le fond de l'embarcation en saisissant Izzy par son collier pour l'obliger à s'aplatir comme moi. Le rayon violet rata d'1 millimètre mes doigts crispés et le collier d'Izzy. Je vis briller dans les yeux de la chienne un regard d'excitation, puis elle voulut poser son museau sur ma poitrine comme elle le faisait toute petite quand elle voulait se faire pardonner quelque chose. Le mouvement fit que sa tête et la section de son cou juste au-dessus du collier se séparèrent nettement du reste de son corps pour tomber par-dessus bord en soulevant une petite gerbe d'eau. Je n'avais pas lâché le collier, et je sentais toujours son poids sur ma main tandis que ses pattes antérieures s'agitaient encore contre ma poitrine. Le sang jaillissait à flot des artères sectionnées. Il était chaud, avec un goût de cuivre. Le rayon taillada de nouveau la végétation, sectionnant cette fois-ci un chalme à 1 mètre de la barque, puis s'éteignit comme s'il n'avait jamais existé. Je me redressai pour regarder Erig à l'autre extrémité du marais. Il était en train d'allumer un cigare, le fusil à rayon posé sur les genoux. La fumée de son cigare se mêlait à la brume qui montait encore de la surface du marais. Je me laissais glisser dans l'eau. Le sang d'Izzy continuait de gicler autour de moi lorsque je commençais à avancer vers Erig. Il leva son fusil à rayon et le tint en travers de sa poitrine. Quand il parla, ce fut avec le cigare rivé aux lèvres pour me dire
« Alors, qu'est-ce que vous attendez pour aller me chercher mes canards? Vous allez les laisser flotter jusqu'à ce qu'ils pourrent !»
Dès qu'il fut à ma portée, je saisis son poncho caméléon de la main gauche et le tirai brusquement en avant. Il essaya de lever son fusil à rayon, mais je le lui arrachai de la main droite et le lançai de toutes mes forces au milieu du marais. Il me cria alors quelque chose et son cigare tomba dans l'affût. Je le déséquilibrai et il bascula dans l'eau. Quand il ressortit la tête, bredouillant des imprécations et crachant des algues, je le frappai très fort sur la bouche. Je sentis la peau de ses lèvres se déchirer tandis que plusieurs de ses dents se cassaient. Puis il se retrouva sur le dos et sa tête heurta le cadre de l'affût avec un bruit creux. Il disparut sous l'eau. J'attendis que son visage adipeux remonte à la surface comme le ventre blanc d'un poisson mort. Quand je le revis, je l'enfonçai de nouveau en le maintenant ainsi. Je vis des bulles d'air crever la surface tandis que ses bras s'agitaient désespérément et que ses grosses mains molles essayaient vainement d'agripper mes poignets pour les écarter. Les trois autres chasseurs, qui n'avaient pas quitté leur position, me criaient des choses à travers le marais, mais je ne les entendais même pas. Lorsque les mains de Eric cessèrent de s'agiter et que les bulles ne formèrent plus qu'un mince filet, je le lâchai et fis un pas en arrière. L'espace d'un instant, je crus qu'il n'allait plus remonter. Mais le gros homme refit explosion à la surface et réussit à s'agripper au bord de l'affût. Puis il vomit de l'eau et des algues. Je lui tournai le dos et m'avançai dans l'eau en direction des autres.
« Ce sera tout pour aujourd'hui !»
leur criai-je.
« Donnez-moi vos carabines ! On rentre !»
Ils ouvrirent la bouche comme pour protester, mais virent mon regard et mon visage couvert de sang, puis me donnèrent leurs armes sans rien dire.
« Allez chercher votre ami !»
ordonnai-je au dernier, hachponné à ce coup. Je portai les carabines dans la barque, les mis en lieu sûr dans le coffre étanche à l'avant, puis portait les boîtes de cartouches à l'arrière. Le corse en tête d'Izzy avait déjà commencé à se raidir lorsque je la fis basculer dans l'eau. Tout le fond de l'embarcation était rouge de son sang. Je retournai à l'arrière, mis les cartouches à l'abri dans le coffre et demeurai debout, appuyé contre ma perche. Les trois chasseurs revinrent enfin en godillant maladroitement dans leurs affûts flottants. Il remorquait celui de Eric, au milieu duquel il était affalé, son visage blême toujours penché au-dessus de l'eau. Ils grimpèrent dans la barque et voulurent hisser les affûts, mais je les arrêtai d'un geste.
« Laissez-les là !» leur dis-je. « Attachez-les à cette racine de chalme. Je reviendrai les chercher plus tard. »
Ils obéirent et hissèrent H. Eric à bord tel un poisson au ventre obèse. Les seuls bruits que nous entendions, à part ceux des oiseaux et des insectes du marais qui reprenaient leurs activités, étaient les haut-le-cœur continuels de H. Eric. Quand il fut à bord, tandis que les trois autres chasseurs échangeaient des commentaires à voix basse, je ramenai le bateau à la plantation. Le soleil achevait à peine de chasser les derniers filets de vapeur du matin qui montaient des eaux noires. Les choses auraient dû normalement en rester là. Mais ce ne fut naturellement pas le cas. J'étais en train de faire à manger dans la petite cuisine rudimentaire lorsque H. Eric sortit du dortoir avec un gros et court pistolet militaire à fléchette. Ces armes sont illégales sur Hyperion. La Pax n'autorise personne à en posséder en dehors de la garde nationale. J'entrevis le visage blême et l'air consterné des trois chasseurs qui regardaient par la porte du dortoir tandis que H. Eric entrait en titubant dans la cuisine, environné de brumes de whisky. Le gros homme ne put résister à l'impulsion de m'adresser un bref discours mélodramatique avant de me tuer.
« Putain de triple mort d'enfant de salaud de païen »
commença-t-il, mais je ne restais pas là à attendre la suite. Je me jetai par terre et en avant au moment même où il tirait à partir de la hanche. 6 000 fléchettes d'acier firent voler en éclats la cuisinière, la marmite dans laquelle j'étais en train de cuisiner, l'évier, la fenêtre au-dessus, les étagères et la vaisselle qu'elle contenait. Nourriture, plastique, porcelaine et verre se mirent à pleuvoir sur mes jambes, tandis que je rampais sous le comptoir ouvert pour lui saisir la jambe alors qu'il allait m'envoyer une deuxième giclée de fléchettes. Je tirai violemment sur sa cheville. Il tomba sur le dos avec un grand bruit qui fit voler des tonnes de poussière du plancher. Je lui immobilisai les deux jambes de tout mon poids, remontai le long de son corps et lui donnai un coup de genou dans le bas-ventre. Puis je lui saisis le poignet dans l'intention de lui faire lâcher son arme. Mais il tenait fermement la crosse et son doigt était toujours sur la détente. Le magasin émit un bourdonnement tandis qu'une nouvelle cartouche à fléchette se mettait en place avec un déclic. Je sentis sur mon visage son haleine qui puait le cigare et le whisky, tandis qu'il tournait le canon vers moi avec un sourire de triomphe. D'un seul mouvement de mon avant-bras, j'écartai son poignet avec le gros pistolet, qui se coinça sous son menton à dix pas. Nos regards eurent le temps de se croiser, avant que ses efforts désordonnés pour se dégager s'ajoutent à la pression de son doigt sur la détente. J'expliquais à l'un des autres chasseurs la manière d'utiliser la radio dans la salle commune, et un glisseur de la sécurité de la PAC se posa dans l'heure sur l'étendue d'herbe devant le bâtiment. Il n'y avait alors qu'une douzaine de glisseurs en activité sur tout le continent, aussi la vue de l'engin noir de la PAX fut-elle pour le moins impressionnante. Ils m'immobilisèrent les poignets avec des bandelettes, me plaquèrent un docile cortical aux tempes et me poussèrent dans le compartiment de confinement à l'arrière de l'appareil. Je demeurai là, ruisselant de transpiration dans le silence torride du glisseur, pendant que les spécialistes de la PAX s'activaient avec des pincettes à extraire les échardes du crâne de Hacherig et les matières cérébrales éparpillées dans les murs et le plancher perforé. Lorsqu'ils eurent interrogé les trois chasseurs et récupéré la majeure partie de Hacherig, je les regardais à travers la cloison en perspex rayé tandis qu'ils chargeaient à bord du glisseur le corps enveloppé dans son sarcophage souple. Les pales de lévitation sifflèrent, les ventilateurs firent entrer un peu d'air au moment où je me disais que je ne pouvais plus respirer, et le glisseur s'éleva dans les airs, fit une fois le tour de la plantation, puis fila vers le sud en direction de Port-Romance. Mon procès eut lieu 6 jours plus tard. Rollman, Ruchomine et Poneascu déclarèrent que j'avais insulté Hacherig à l'aller et que je l'avais agressé dans les marais. Ils testifièrent que le chien avait été tué dans la mêlée que j'avais provoquée et qu'au retour à la plantation, j'avais brandi sur eux le pistolet à fléchette interdit en menaçant de les tuer tous. Hacherig avait essayé de me désarmer et j'avais tiré sur lui littéralement à bout portant ce qu'il avait pratiquement décapité. Hacherig fut le dernier à témoigner, encore pâle et frémissant de sa résurrection vieille de 3 jours, vêtu d'un costume de ville et d'une cape sombre, sa voix tremblant tandis qu'il confirmait le témoignage des autres et décrivait mon agression sauvage à son encontre. Mon avocat commis d'office ne se donna pas la peine de le contre-interroger. En tant que chrétien régénéré en excellents termes avec la Pax, les 4 hommes ne pouvaient pas être forcés à témoigner sous l'effet du dit vrai ni de tout autre moyen chimique ou électronique de vérification. Je me déclarais volontaire pour subir un sondal ou absorber du dit vrai, mais le procureur général objecta que ces procédés étaient sans objet dans le cas présent, et le juge, agréé par la Pax, le soutint. Mon avocat ne protesta pas. C'était un procès sans jury. Le juge prononça le verdict en moins de 20 minutes. J'étais coupable, et il me condamnait à être exécuté au moyen d'un bâton de la mort. Je me levai pour demander que l'exécution soit reportée jusqu'à ce que je puisse prévenir ma tante et mes cousins dans la partie nord d'Aquila, afin qu'ils me rendent une dernière visite. Mais ma demande fut rejetée. L'exécution fut fixée au lendemain à l'aube. Chapitre 3. Un prêtre du monastère de la Pax à Port-Romance vint me voir ce soir-là. C'était un petit homme assez nerveux, aux cheveux blonds clairsemés, affecté d'un léger bégaiement. Dans le parloir sans fenêtre, il se présenta sous le nom de Père T et fit signe aux gardes de se retirer.
« Mon fils,
commença-t-il, j'eus envie de sourire car il devait avoir à peu près mon âge.
« Mon fils, êtes-vous prêt pour demain ?»
Je n'avais plus du tout envie de sourire. Je haussai les épaules. Le père Tse remua silencieusement les lèvres avant d'ajouter d'une voix tendue d'émotion «
Vous n'avez pas accepté notre Seigneur ?»
J'eus de nouveau envie de hausser les épaules, mais je me contentai de murmurer
« Je n'ai pas accepté le cruciforme, mon père. Ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose. » Ses yeux bruns étaient insistants, presque suppliants. « C'est la même chose, mon fils. » Telle est la révélation que nous a faite notre Seigneur.
Je ne répondis pas.
Le père Tsé posa son missel et toucha mon poignet lié.
« Vous savez que si vous vous repentez ce soir en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, 3 jours après, ce qui se passera demain, vous vous lèverez pour revivre, revêtu de la grâce absolutoire de notre Seigneur. Vous n'ignorez pas cela, n'est-ce pas, mon fils ?»
Je soutins son regard. Un prisonnier dans l'une des cellules voisines n'avait pas cessé de hurler ces 3 dernières nuits et j'étais épuisé par le manque de sommeil.
« Je sais, mon père, » murmurai-je. « Je sais très bien comment fonctionne le cruciforme. »
Le père Tsé secoua vigoureusement la tête.
« Pas le cruciforme, mon fils, la grâce de notre Seigneur !»
Je hochai la tête. « Avez-vous connu une résurrection, mon père ?» Il baissa les yeux en disant
« Pas encore, mon fils, mais je ne crains pas ce jour, et vous ne devez pas le craindre non plus, »
ajouta-t-il en me fixant de nouveau dans les yeux. J'abaissai un instant mes paupières. Je n'avais pas cessé une seule minute au cours des 6 derniers jours et des 6 dernières nuits de penser à cela.
« Écoutez, mon père, lui dis-je enfin, sans vouloir vous offenser, j'ai pris la décision, il y a de cela un certain nombre d'années, de ne jamais me soumettre au cruciforme, et je ne crois pas que le moment soit bien choisi pour changer d'avis. »
Le père Tsé se pencha en avant, les yeux brillants.
« Il n'est pas trop tard pour accepter notre Seigneur, mon fils. Demain, après le lever du soleil, par contre, vous n'aurez plus le choix. Votre corps sans vie sera conduit en mer et donné en pâture aux poissons charognards de la baie. »
L'image n'était pas nouvelle pour moi. « Je sais, lui dis-je. Je n'ignore pas les conséquences de l'exécution d'un condamné non converti. Mais j'ai déjà cela. » Je touchais le docile cortical, à présent fixé de manière permanente à ma tempe.
Je n'ai pas besoin qu'on m'implante un symbiote cruciforme destiné à m'asservir encore plus.
Le père Tsé eut un mouvement de recul comme si je l'avais giflé.
Une vie dédiée à notre Seigneur n'est en aucune manière une servitude,
protesta-t-il, son bégaiement totalement effacé par la colère.
Des millions de personnes l'ont fait avant même que la récompense tangible d'une résurrection en ce bas monde leur soit offerte. Des milliards l'acceptent aujourd'hui avec gratitude. Vous avez le choix, mon fils,
conclut-il en se levant.
La lumière éternelle, associée aux bienfaits d'une vie pratiquement illimitée ici-bas, où vous pourrez servir le Christ, ou bien les ténèbres éternelles.
Je haussai les épaules en détournant les yeux. Le père Tsé me donna sa bénédiction et me dit adieu d'une voix où se mêlaient la tristesse et le mépris. Il se tourna pour appeler les gardes et sortit. 1 minute plus tard, une douleur vive me transperça le crâne tandis que les gardes excitaient mon docile pour me reconduire dans ma cellule. Je vous épargnerai la longue litanie des pensées qui se succédèrent dans ma tête tout au long de cette interminable nuit d'automne. J'avais 27 ans. J'aimais la vie d'une manière passionnée qui m'avait plus d'une fois conduit à des ennuis sérieux, bien que peut-être pas autant que cette fois-ci. Durant les premières heures de cette nuit finale, j'envisageais de m'échapper avec la fureur d'un animal en cage donnant des coups de griffe à ses barreaux d'acier. Ma prison était au sommet d'une falaise, dominant le rocher appelé la Mandibule, au fond de la baie de Toschaï. Tout y était en perspex incassable, acier indéformable ou plastique moulé d'une seule pièce. Les gardes étaient armés de bâtons de la mort, et je ne les sentais nullement réticents à l'idée de s'en servir. Même si je réussissais à m'échapper, il leur suffisait d'appuyer sur le bouton de commande à distance de mon docile pour que je me plie en deux, frappé par la pire névralgie faciale de tout l'univers, jusqu'à ce qu'il me retrouve n'importe où grâce au signal de repérage.
Je passais mes dernières heures à méditer sur les folies de mon inutile et courte vie. Je ne regrettais rien, mais je n'avais pas grand-chose à mettre dans la balance en faveur de Roll Endymion et de ses 27 ans d'existence sur Hyperion. Le thème dominant dans mon destin semblait être cette même obstination perverse qui me faisait refuser la résurrection. « Et même si tu donnais une vie à l'Église, » me soufflait une voix frénétique à la base du crâne, « ce serait toujours une vie de gagnée, avec bien d'autres en prime. Comment peux-tu rejeter une offre pareille, tout plutôt que la vraie mort ? Ton corps en décomposition, jeté aux lamproies, aux sélacantes et aux vers carques. Réfléchis bien !» Je fermais les yeux et fis comme si je dormais, juste pour échapper à l'écho de mes propres hurlements intérieurs. La nuit dura une éternité, mais l'aube arriva encore trop vite. Quatre gardes vinrent me chercher pour me conduire dans la salle d'exécution, puis refermèrent la porte étanche en acier. En regardant par-dessus mon épaule gauche, je vis des visages qui m'épiaient à travers la vitre en perspex. Je m'étais attendu confusément à ce qu'un prêtre, peut-être pas le père Tse, mais un autre, ou un représentant quelconque de la Pax, viennent m'offrir une ultime occasion de choisir l'immortalité, mais personne ne se présenta. Une partie de moi-même en fut contente, mais une partie seulement. Aujourd'hui encore, je suis incapable de dire si j'aurais changé d'avis au dernier moment. La méthode d'exécution était d'une simplicité mécanique, peut-être pas aussi ingénieuse que le casier-achat de Schrödinger, mais astucieuse quand même. Un bâton de la mort à court rayon d'action était fixé au mur, braqué dans la direction du fauteuil. Je vis la lumière rouge clignoter sur le petit persoc relié à l'arme. Les détenus des cellules voisines avaient pris un plaisir pervers à me chuchoter les détails de ma mort avant même que le verdict eût été rendu. L'ordinateur persoc était muni d'un générateur de nombres aléatoires. Dès que le résultat obtenu serait un nombre premier inférieur à 17, le bâton de la mort serait activé et chaque synapse contenue dans la masse grise constituant la personnalité et la mémoire de Roll Endymion serait fondue, détruite, réduite à l'équivalent neuronal d'un résidu radioactif. Mes fonctions autonomes cesseraient quelques millisecondes plus tard. Mon cœur et ma respiration s'arrêteraient dès que mon cerveau serait détruit. D'après les spécialistes, l'exécution par bâton de la mort est une façon d'ôter la vie sans douleur, plus douce que tout ce qui a pu être utilisé avant. Ceux qui ont ressuscité après une telle fin n'aiment généralement pas parler des sensations qu'ils ont éprouvées, mais le bruit qui courait d'une cellule à l'autre était que cela faisait extrêmement mal, comme si tous les circuits du cerveau explosaient en même temps. Je ne pouvais détacher mon regard du persoc et de l'extrémité utile du court bâton de la mort. Un petit farceur avait orienté l'affichage à diode de telle manière que je puisse voir les nombres qui défilaient. Ils se succédaient comme les numéros des étages dans un ascenseur à destination de l'enfer. 26, 74, 109, 19, 37. Le persoc était programmé pour ne générer que des nombres inférieurs à 150. 77, 42, 60, 84, 129, 108, 14. Je perdis alors le compte. Je serrai les poings, tirai sur les attaches en plastique inaltérable et me mis à hurler des obscénités au mur, au visage blême déformé par la paroi en perspex, à la putain d'église et à sa putain de pax, au foutu lâche qui avait tué mon chien et au putain de salaud de merde qui... Je ne vis pas apparaître sur l'affichage le nombre premier inférieur à 17. Je n'entendis pas le déclic du bâton de la mort qui s'activait. Je sentis bien quelque chose, une sorte de froid de ciguë qui naquit au niveau de mon occiput, pour s'étendre à toutes les autres parties de mon corps avec la rapidité d'une conduction nerveuse. Et je fus même surpris de ressentir quoi que ce soit. « Les spécialistes se trompent, ce sont les détenus qui ont raison », pensais-je frénétiquement. « Le bâton de la mort procure des sensations. » J'aurais gloussé de rire à ce moment-là si une paralysie ne m'avait envahi tout le corps comme une onde. Une onde noire.
une onde noire qui m'emportait au loin.